Alors, je présente maintenant M. Henri Korn, notre conférencier de ce soir. Il est né en 1934. Il est neurobiologiste, docteur en médecine et docteur en sciences, membre de l'Académie des sciences et directeur du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du neurone à l'Institut Pasteur. Quelques mots sur son parcours. De 1959 à 64, il est interne des hôpitaux de Paris en spécialité neurologie et psychiatrie à l'hôpital de la Salpêtrière. 1961-1966, il fait des études à la faculté des sciences en neurophysiologie, psychophysiologie et génétique. 1967, c'est l'année de sa thèse, docteur en sciences. À partir de là, quelques indications sur sa carrière de chercheur. 1962 à 1967, il est au Centre d'études de physiologie nerveuse de l'Institut Marais à Paris. De 72 à 82, il est au laboratoire de physiologie du CHU Pitié-Salpêtrière. De 83 à 94, laboratoire de neurobiologie cellulaire de l'Institut Pasteur. Depuis 94, laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du neurone, Institut Pasteur. Il a, pendant le même temps, occupé des postes de professeur dans des universités américaines, notamment State University of New York à Buffalo et Allegheny University à Philadelphie et Albert Einstein College of Medicine à New York en ce moment, en 1999. Henri Korn est spécialiste des transmissions synaptiques, des mécanismes quantiques de la libération des neurotransmetteurs dans les synapses centrales, des réseaux neuronaux. Il travaille aussi sur les neurosciences mathématiques. Il a écrit, bien sûr, comme tous nos conférenciers, de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, et il fait partie de comités éditoriaux de nombreuses revues. Voilà, je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes, ou un peu plus, et ensuite, il répondra à vos questions. Je vous remercie, bonsoir.
Bien, merci d'être venu malgré la pluie, et j'espère que je vais vous intéresser malgré la difficulté du sujet que je vais évoquer devant vous. Il porte sur le cerveau la chance et le chaos. Et je vais tout de suite vous donner quelques notions générales, quelques remarques, car en effet, la notion de hasard a posé tout le temps des difficultés à l'intelligence rationnelle. Et d'ailleurs, il est assez remarquable qu'elle est la plus tardive à être comprise par l'enfant lors de son développement intellectuel. Un enfant ne comprend rien au hasard avant 11 ou 12 ans. Piaget a écrit des pages magnifiques là-dessus. Mais elle a également rebuté nombre de scientifiques, en particulier des biologistes, qui se trouvaient pourtant confrontés à des données expérimentales dont l'extrême variabilité et l'aspect aléatoire étaient tout à fait manifestes. Et en général, ils ont éliminé cette composante de leur réflexion et de leur analyse même parfois. Dominaient donc et dominent encore chez eux les dogmes de loi et d'ordre, le concept de hasard ne faisant que recouvrir selon eux notre ignorance des véritables lois de la nature à un moment donné de l'histoire des sciences. Et il en va ainsi d'une certaine vision mécaniste du cerveau qui a été comparée même à une machine ou un ordinateur. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que nous vivons une époque tout à fait passionnante, comparable à celle qui, au siècle dernier, a révolutionné la physique et qui remet en cause cette vision simpliste des faits que je viens d'évoquer. Elle souligne, en fait, la fécondité de l'interface entre cette même physique, les mathématiques appliquées et la biologie. C'est ça que je voudrais aussi illustrer dans le court temps qui m'est imparti. L'exposé que je vais vous faire sera divisé en trois parties. D'abord, j'évoquerai très rapidement quelques-uns des... Alors, elles se complètent, il ne faut pas les opposer. Elles se complètent. J'évoquerai d'abord, très rapidement, les arguments qui plaident en faveur d'un cerveau, disons, déterministe, mécaniste, celui sur lequel je viens d'ironiser un moment. Deuxièmement, j'illustrerai, à contrario, la nature probabiliste de la transmission de l'information au niveau des jonctions appelées synapses qui contactent entre eux les neurones et éventuellement certaines de ses conséquences. Et puis, troisièmement, je vous familiariserai avec un phénomène qui ajoute encore au caractère souvent imprévisible de certaines opérations du cerveau, à savoir le chaos. Celui-ci est présent en effet, selon toute probabilité, j'insiste là-dessus, malgré la force des données expérimentales qui en témoignent, il est présent, selon toute vraisemblance, dans le cerveau. Et avec les concepts du chaos et de la dynamique non linéaire qui l'accompagne, nous entrons dans un domaine tout à fait nouveau des neurosciences qui a peu à voir avec le réductionnisme conventionnel. Il témoigne de l'extrême complexité des interactions qui se déroulent dans le système nerveux et qui sont abordées donc, compte tenu de leur complexité, à un niveau essentiellement macroscopique. On ne va pas entrer dans le détail, on va voir l'effet, et parfois même l'effet émergent, de tous les éléments que comporte le cerveau lorsqu'il est en action. Et l'essentiel de tout cela, je dois le dire, nous est, malgré les trompettes triomphalistes de certains, encore tout à fait inconnu. Je voudrais souligner que des chercheurs comme Dan Faber aux États-Unis, qu'on a évoqué tout à l'heure, Antoine Triller, et plus récemment un jeune chercheur de grand talent, Philippe Faure, ont eu le courage d'aborder avec nous ces questions qui, au fond, étaient assez risquées dès le départ. Et je suis navré d'être obligé de dire que sur le plan institutionnel, c'est essentiellement aux États-Unis que nous avons trouvé les sources de financement pour les travaux que je vais vous évoquer. C'est encore un témoignage d'une situation que je ne peux que dénoncer ici devant vous, comme d'autres le font régulièrement. Alors, voyons d'abord les arguments en fonction d'une vision, comme ça, comme j'ai dit, d'un cerveau très organisé, très câblé. Il y en a essentiellement trois. Il y en a d'autres, bien sûr, mais j'en ai évoqué trois ici. D'abord, il y a la rigidité ou la fixité, la reproductibilité de l'organisation anatomique. J'illustre ici par une coupe sagittale du cerveau qui a été colorée à l'argent. Et vous voyez cette belle régularité, il s'agit d'une coupe du cervelet. On a des fibres parallèles, dont on sait maintenant qu'elles sont excitatrices, des cellules de Purkinje qui sont activées, qui sont la cible principale de ces fibres parallèles, leurs axones qui convergent très joliment vers un faisceau qui va sortir. Il y a des interneurones ici dont on sait maintenant qu'ils sont inhibiteurs. Tout ça donne une image de fixité, de belle organisation, d'autant plus qu'en ce qui concerne le cervelet, ce n'est pas vrai toutes les structures cérébrales, mais en ce qui concerne le cervelet, on la retrouve avec une fixité prodigieuse et une reproductibilité prodigieuse depuis les vertébrés inférieurs jusqu'à l'homme. La suivante illustre un des autres aspects de fixité, c'est la constance, dit-on dans les traités, de la réponse réflexe. C'est le réflexe du médecin qui vient examiner votre réflexe rotulien, par exemple, et qui est schématisé ici sous la forme d'un muscle qui est tendu sur un poids. Et vous voyez qu'il y a ici des fibres qui se dirigent vers la moelle, qui vont contacter un neurone, lequel va en retour activer ce neurone. Qu'est-ce qui se passe? L'étirement du muscle provoque l'activation de ce fuseau neuromusculaire qui va envoyer des influx qui vont en retour provoquer une réaction de contraction réflexe. Et enregistrée sur le vieux tambour de Marais, cette réponse réflexe frappe par la constance de sa latence, de sa cinétique, de son amplitude. En réalité, rien n'est plus difficile expérimentalement que d'obtenir une image aussi belle que ça. N'empêche que cette notion déterministe de l'arc réflexe a dominé tout le début du XXe siècle et elle traîne encore dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. J'évoquais dans un premier temps les éléments qui, dans l'esprit de chacun d'entre nous, conduisent ou permettent de comparer un cerveau à une machine, un ordinateur. Et parmi ceux-ci, il y avait la constance de l'organisation anatomique, la fixité de l'arc réflexe, et puis, dernier élément que j'ai choisi, la suivante, s'il vous plaît, le pouvoir des gènes. Évidemment, le pouvoir des gènes est considérable, il va guider le cerveau comme le reste de l'organisme au cours de son développement, et il peut même conduire à... Il peut contrôler certains comportements, comme par exemple le comportement amoureux de la mouche. Ça ne marche pas très bien, votre truc. Hein. Voilà une mouche ici, c'est un monsieur, ça c'est une dame. Et bah, comme nous, il flirte. Mais le flirt de la mouche consiste en des battements d'ailes du mâle, qui cherche à plaire à la femelle comme ça, et qui est constitué par une série de battements successifs, très rapides, séparés par des intervalles très réguliers d'environ 55 secondes. Or, des mutations de ce gène conduisent à des modifications très marquées de ce comportement qui peuvent être soit plus rapides sur la mutation, soit plus lents, soit même complètement disparaître. Bon. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la génétique, l'anatomie, l'activité réflexe élémentaire sont en quelque sorte l'armature, le carcan au sein duquel les opérations du cerveau vont se dérouler. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur leur intimité. Et tous ces éléments sont beaucoup plus variables qu'on ne veut bien le dire dans les traités classiques. La suivante, c'est ce que je vais illustrer en vous montrant, en essayant de commenter devant vous, les résultats expérimentaux qui ont été obtenus sur un matériel expérimental très simple que vous connaissez, contrairement à ce que vous pensez, et qui est schématisé ici sur ces deux neurones qui sont également colorés sur une coupe transversale du poisson, qui sont dans le bulbe et qui contrôlent la réflexe de fuite du poisson. En effet, quand vous jetez une pierre dans l'eau, le poisson fuit. C'est parce qu'une de ces deux cellules spécialisées est une cellule de commande d'un réflexe qui a une fonction vitale essentielle, puisqu'elle va permettre, lorsqu'elle est activée, en réaction à un stimulus visuel, à un stimulus auditif, à une menace, de sauver la vie de l'animal en le faisant fuir du côté opposé à ce danger. La suivante vous montre combien est déjà complexe l'organisation de la chaîne réflexe qui va nous conduire depuis cette cellule de commande vers les muscles périphériques et vers les muscles du bon côté, de façon à ce que l'animal puisse fuir du bon côté. On a cette cellule de Motner, qu'on appelle de Motner, qui est ici, c'est un véritable cerveau dans le cerveau. Son axone croise la ligne médiane, descend dans la moelle, et il va activer toute une série de neurones, neurones moteurs, et puis neurones inhibiteurs qui vont garantir que le côté opposé ne contrecarre pas l'ordre ainsi donné. Or, ce réflexe, qui est un réflexe d'une certaine façon garanti, parce que sinon l'animal ne pourra pas échapper, par exemple, à un prédateur. Non, la précédente. Ce réflexe, en réalité, est extrêmement variable. D'un coup à l'autre, la trajectoire suivie par l'animal ne sera pas du tout la même. Et elle sera en fait imprévisible. C'est ce qu'on vous montre ici, ces petits schémas qui simplifient les trajectoires vues du dessus, chaque point représentant un moment de la trajectoire à 5 millisecondes d'intervalle. Et évidemment, cette variabilité a une fonction adaptative essentielle. C'est elle qui va empêcher un prédateur d'adopter à coup sûr une stratégie de capture. Or, c'est au niveau des connexions qui relient entre eux ces neurones, et qu'on appelle des synapses, et que je vais vous illustrer maintenant, que se passe un des éléments essentiels de la variabilité et du hasard que je vous ai évoqué depuis le début de cet exposé. Alors, on a ici une chaîne neuronale classique avec deux neurones, un neurone 1, un neurone 2, et ce neurone présynaptique va parler et va donner des ordres aux neurones suivants par l'intermédiaire de ces jonctions qu'on appelle des synapses. En voilà ici une illustration prise au microscope électronique. Vous voyez ici la calibration qui est de 0,1 micron. Et elle est constituée, on a ici la barrière qui sépare deux neurones. On a ici des petites vésicules là-dedans qui contiennent une substance qu'on appelle le transmetteur. Et lorsque un influx va dégringoler le long de l'axone et va activer ses synapses, une de ces vésicules va s'ouvrir dans l'espace intercellulaire, libérer le contenu de ce qu'elle contient, c'est-à-dire une substance chimique qu'on appelle un neuromédiateur, lequel va venir en secondairement, s'accrocher à la partie postsynaptique et ouvrir des canaux, un temps très bref, canaux qui vont rétablir la discontinuité de la transformation de la transmission de l'influx. Pourquoi ? Parce que la résistance électrique entre ce neurone qui parle et ce neurone qui écoute est telle que le courant électrique ne peut pas passer directement et donc il faut qu'il y ait un relais. Ces vésicules-là ne s'ouvriront pas, malgré le fait qu'une terminaison va être activée par un influx présynaptique. Contrairement à ce qu'on pense, la transmission de l'information de ce neurone présynaptique à ce neurone postsynaptique n'est pas garantie. Elle est incertaine. Et en fait, elle répond aux lois du hasard. C'est ce qu'avait montré déjà Katz à la jonction entre le nerf et le muscle, la suivante. Et ces expériences qui sont faites ici résument, au fond, l'essentiel des choses à un ou deux détails près. Vous avez ici un nerf, ici vous avez un muscle, une électrode, et cette électrode va recueillir des courants électriques qui sont générés par cette interaction entre le nerf et le muscle. Il y a deux types d'interactions. Spontanément, des petits accidents électriques ici, qui ont tous à peu près la même amplitude, et qu'on appelle, sont les plus petits, et on les appelle, par analogie avec la physique, des quantas. Donc chacune est un quantum de neuromédiateurs. Et lorsque le nerf va être activé par un influx, toute une partie, on va obtenir des réponses de plus grande amplitude qui seront constituées par 1, 2, 3, n de ces quantas, dont on voit ici la disposition en 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Qu'est-ce que sont ces quantas ? Selon Katz, ils répondent à la sortie du contenu d'une seule de ces vésicules. C'est ce qu'on appelle la théorie vésiculaire de la transmission synaptique. Katz avait déjà remarqué que, bien entendu, que la disposition de ces éléments 1, 2, 3, 4 répondait à des lois statistiques. Mais les lois qu'il avait observées étaient des lois... La probabilité était extrêmement petite parce que les conditions expérimentales dans lesquelles il travaillait l'obligeaient à réduire un petit peu sa préparation à cette situation-là. Et la question, alors c'est ce qu'on appelle la transmission quantique de l'information. Le problème se posait de savoir si oui ou non la transmission est également quantique et de quelle nature est-elle probabiliste ou garantie dans le cerveau, dans le système nerveux central. Les expériences qui ont été faites maintenant dans le cerveau, entre les cellules qui, ici, contactent la cellule de Mautner et la cellule de Mautner elle-même, avec une électrode dans un de ces neurones et une électrode dans celui qui écoute, c'est-à-dire la cellule de Mautner, ont montré que l'activation de ce neurone par ce grand potentiel ici, qu'on appelle un potentiel d'action, provoquait bien l'apparition de réponses dans cette cellule qui écoute, mais là encore, celle-ci n'est pas constante dans son amplitude et elle donne l'impression qu'on a des quantas, fait qui a été confirmé par ailleurs, je ne vous détaille pas tout ça. Mais cette variabilité, en fait, a un sens et elle peut être décrite d'une façon un peu plus précise. L'image suivante nous résume les résultats obtenus. Voilà par exemple un neurone avec 6 terminaisons, disons pour simplifier 6 synapses. Il est activé par un influx et à chacune de ces terminaisons, on peut avoir un succès, c'est-à-dire la sortie d'une vésicule synaptique ou un échec avec cette fréquence-là, 1-P, dans d'autres. Et les uns et les autres vont répondre ou ne vont pas répondre suivant des combinaisons qu'on voit ici. Par exemple, ces trois-là vont répondre à un coup, et puis ces trois autres à un autre coup, et puis celle-là à un autre, et puis on pourra avoir zéro réponse. On peut très bien avoir un échec à la transmission. Un quantum, 2, 3, 4, 5, 6, autant qu'on a de boutons synaptiques qui contactent la cellule. Et les lois qui gouvernent cette transmission sont des lois en première approximation, des lois binomiales qui peuvent être simples ou composées et qui sont, pour résumer les choses, qui sont les lois du jeu de pile ou face ou les lois du lancement de dés. Autrement dit, encore une fois, la transmission de l'information d'une synapse à sa cible n'est pas garantie, elle est probabiliste et elle, chaque synapse, en somme, joue au dé. Mais la probabilité, ici, qu'on ait ou non une sortie, n'est pas 0,5. Elle est variable et on va voir ça tout à l'heure. Quelles sont les conséquences de cet aspect probabiliste de la neuromédiation ? Autrement dit, du caractère incertain de la neuromédiation. Eh bien, ça donne pour chaque neurone qui contacte sa cible un registre, une variabilité, une richesse absolument incroyable. Pourquoi ? Voyons ici un neurone, c'est un neurone qui fait partie des données expérimentales, qui a été stimulé, la cellule de Bottner a été enregistrée, et puis après l'expérience, il a été coloré, reconstitué, et vous voyez ici, par exemple, qu'il se termine par 26 terminaisons. Si on prend, par exemple, ces 10 d'entre elles pour simplifier le schéma, et qu'on les met ici, on a 10 terminaisons, en fait, on en aura 26 pour celui-là, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un coup à l'autre, on peut avoir deux de ces 10 synapses qui s'allument, ou qui transmettent leur information, deux autres, ici, ça peut être 5, mais pour le 5, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-là, d'où une combinatoire qui n'est pas indifférente pour le comportement de la cellule, parce qu'on sait que selon l'endroit où se termine la cellule sur le cible, l'effet est légèrement ou même franchement différent sur la relation entrée sortie des neurones. Et vous voyez le nombre de combinaisons. Par exemple, pour 10 simplement, en les prenant 5 à 5, comme ici, on arrive à 250 possibilités. 250 pour celui-là. Pour ce neurone qui comporte 26 terminaisons, on arrive à plus de 67 millions de possibilités. Et pour deux neurones qui auraient chacun 26 terminaisons, ce qui n'est pas rare, loin de là, on arrive à des chiffres absolument extraordinaires de 45 que multiplie 10 puissance 15, c'est-à-dire 10 suivi de 14 zéros. Une autre conséquence de cette incertitude, outre la combinatoire, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que cette incertitude apporte une grande richesse au fonctionnement des cellules. Pourquoi ? Parce que la probabilité, par exemple, d'exocytose, la probabilité de transmission de l'information, peut être gouvernée par un certain nombre de situations, par exemple, au cours de l'apprentissage. Et c'est important, parce que la mémoire est considérée comme stockée au niveau des synapses. Or, reprenons le schéma de la synapse ici, avec son conversant présynaptique, les molécules de transmetteurs qui se déversent pour activer quelques-uns de ces canaux après s'être liés à eux un temps très bref, au niveau de leur récepteur. On peut donc modifier la force de la synapse sur sa cible, pour une donnée, de plusieurs façons, soit en augmentant la probabilité de libération ici, soit en augmentant le nombre de canaux ouverts, soit les deux. Et c'est ce qui se passe dans certaines conditions expérimentales, qui sont des métaphores de la mémoire, on ne sait pas si c'est la mémoire proprement dite, mais enfin tout de même, qui permettent d'aborder le questionnement de la mémoire, qu'on appelle la potentialisation à long terme. Qu'est-ce que la potentialisation à long terme ? Comment apprend-on en général ? On apprend par la répétition des choses. Et de la même manière, les synapses apprennent par la répétition d'un stimulus qui finalement va augmenter leur force. Et c'est ce qui se passe ici, par exemple. Voilà un enregistrement d'un neurone, d'un autre, et on va activer cette chaîne chez l'animal vivant par un stimulus sonore. Brut, 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 on répète le stimulus. Et puis, au bout d'un certain temps, la réponse ici, qui est une réponse inhibitrice de la cellule de Motner, va, vous le voyez, grandir de façon notable, ce qui suggère que l'inhibition de la cellule de Motner, c'est-à-dire sa réactivité à un stimulus donné, va être réduite. Et effectivement, c'est ce qui se passe maintenant au niveau du comportement lui-même. Cet accroissement, je le signale, a été obtenu par, on le sait, il y a des moyens de le montrer, par une augmentation de la probabilité de libération des neuromédiateurs. C'est ça qui, ici, détermine l'augmentation de la force décimale. Eh bien, alors qu'un poisson réagit et fuit à une balle qu'on lance sur l'aquarium sur lequel il est, vous le voyez ici, cinématographié toutes les 15 millisecondes, la même balle, après le conditionnement sonore de l'animal, devient inefficace et l'animal, puisque on a affaire à des synapses inhibitrices, ne bouge plus. Si on avait affaire à des synapses excitatrices, ça serait l'inverse, il deviendrait beaucoup plus excitable. Encore une fois, c'est la modification des probabilités qui, en première approximation, est responsable de cette modification de tout un comportement de l'animal. Bien. Alors, nous venons de voir comment se comportent très schématiquement les jonctions qu'un neurone établit sur sa cible. On peut dire que la neuromédiation est probabiliste, n'est pas garantie, et se fait avec une certaine probabilité. Le problème qui se pose maintenant est de savoir comment se comporte un groupe d'éléments. C'est-à-dire non pas un neurone, mais toute une catégorie de neurones, ou un ensemble de neurones, lorsqu'ils sont actifs sur leur cible. Et là, on pourrait dire, oh, bon bah, très bien, les lois des moyennes vont faire que les uns vont faire une chose, les autres, mais en moyenne, ça va s'équilibrer. Et en réalité, les choses ne sont pas si simples là non plus. Et vous allez voir que ce comportement d'un groupe de neurones, lui aussi, introduit une grande incertitude, mais cette fois-ci, cette incertitude est d'une toute autre nature que celle que je viens de vous évoquer maintenant. Il y en a une, mais elle est différente. Et c'est là qu'on va entrer très progressivement dans... on va approcher ce qu'il en est du chaos et de la dynamique non linéaire. Je voudrais, avant de conclure cette première partie sur la variabilité de la transmission synaptique et les conséquences qu'elle peut avoir pour le comportement d'un animal, insister sur le fait que ces observations ont été faites sur un neurone de poisson, comme celles qui vont suivre, mais elles ont été retrouvées dans toute la phylogénie, depuis les vertébrés inférieurs jusqu'aux primates. Bon, chez l'homme, c'est plus difficile, mais on a toutes les garanties qu'il en est de même. D'une façon générale, d'ailleurs, ce qu'on observe, à condition de bien poser la question, ce que l'on observe sur une catégorie donnée, a valeur générale pour un grand nombre de cas. Bien. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe maintenant quand on a affaire à un groupe de neurones, ou du moins lorsqu'une cellule est sollicitée par tout un ensemble d'afférences qui viennent, comme ça, l'activer. Alors là, on se trouve devant une série d'éléments très différents. Revoilà la cellule de Mautner, cette cellule dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais avec, cette fois-ci, schématisée ici, une partie de ses afférences. C'est-à-dire des neurones qui lui parlent, qui l'activent ou qui l'inhibent. Les uns sont inhibiteurs, les autres sont excitateurs. Et au repos, car nous allons parler maintenant des conditions de repos du cerveau, en réalité, ces neurones sont actifs d'une façon désordonnée. Et l'activité dans chacun de ces neurones, qui a cette forme d'un potentiel d'action, va provoquer l'apparition, dans cette cellule qu'on enregistre, une variation de son niveau d'activité de base, qui est constituée par une série d'éléments synaptiques qui succèdent, comme ça, apparemment au hasard, et qu'on appelle le bruit synaptique. On l'a appelé bruit parce qu'il a déconcerté tout le monde. Il a gêné les premiers expérimentateurs, il semblait défier toute description, et pourtant, il a de l'importance, parce que, vous voyez, si ici, par exemple, on a un potentiel inhibiteur qui l'a, et à ce moment-là, un potentiel excitateur survient qui a tendance, au contraire, à dire à la cellule, allez, transmet un message, le potentiel va être tiré vers le bas, et le niveau ici, qui est indiqué par un pointillé, et qui indique le seuil d'activation de la cellule, va être tiré. Et autrement dit, le bruit synaptique, suivant qu'il est excitateur ou inhibiteur, influence de façon différente et opposée la relation, ce qu'on appelle la relation entrée-sortie de la neurone. Une entrée n'aura pas le même effet suivant qu'elle arrive en contemporaine d'un élément comme celui-là ou d'un élément comme celui-là. Donc c'est un élément important. Mais qu'en est-il de ce bruit qui, encore une fois, paraît, à première vue, tout à fait aléatoire? Et les premières analyses de la composition de ce bruit semblaient indiquer qu'il était aléatoire aussi. En réalité, ce qui n'avait pas été fait, c'est que ce bruit n'avait pas été considéré comme un ensemble dynamique, comme un ensemble évoluant. Pourtant, il évolue à tout temps. Mais on a cherché à le caractériser dans l'instant. C'est ce que faisaient les analyses classiques qui cherchaient, par exemple, à représenter l'intervalle de temps qui sépare chacun de ces éléments qui sont exprimés ici en quantas. On a 7,8 quantas ou 16 quantas ou 5 quantas. Bon, on en restait un petit peu aux analyses traditionnelles. Or, l'image suivante va nous révéler quelque chose que pourtant nous savions tous, c'est que des systèmes dynamiques, puisque j'insiste sur le fait que maintenant nous entrons dans la dynamique des choses, qui ont l'air stochastiques, qui ont l'air aléatoires, peuvent en fait cacher un ordre. Si on prend cette série temporelle ici et qu'on analyse par exemple le temps qui les sépare, qui est indiqué ici en vertical, en ordonnée, et qu'on fait un histogramme classique de cette distribution, on a une décroissance exponentielle ici qui, pour tous ceux qui sont familiers avec les choses, nous dit que, bien entendu, il s'agit d'un phénomène aléatoire, d'un phénomène stochastique banal. Par contre, si on utilise une autre approche, on prend les mêmes phénomènes ici, mais on va les représenter d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on va représenter, par exemple, le temps de l'un, le premier ici, en fonction du temps de l'autre. Donc, on a un intervalle de temps ici, IN, et puis le suivant, IN plus 1. Et puis on recommence, comme ça, IN, IN plus 1, IN, IN plus 1, IN plus 1 devenant IN au coup suivant. On constate ici que dans cette représentation, qu'on appelle une application de premier retour, surgit un ordre, une figure très particulière que rien ne laissait présager quand on voit quelque chose d'aussi désordonné. Autrement dit, des systèmes en apparence stochastiques peuvent cacher un ordre. Ces applications de premier retour ont été utilisées pour étudier le présynaptique. Et là, il y a eu des surprises, et c'est ces surprises-là que je voudrais vous montrer et vous faire partager ce que nous avons considéré comme une véritable beauté. La suivante nous l'illustre. Alors, je reprends la démarche qui est d'une simplicité extrême. Voilà le bruit synaptique qui a été différencié pour les spécialistes. On a ici ces accidents dont chacun est un potentiel synaptique. Chacun signale que la cellule a été activée par un des neurones que je vous ai illustré tout à l'heure. Et on met un seuil et on va sélectionner tous les éléments qui sont au-dessus de ce seuil. Et on va mesurer leur intervalle. Et puis, comme tout à l'heure, IN, IN plus 1, le premier et le suivant, et le suivant et celui qui lui, etc., etc. Ensuite, on va abaisser le seuil, on va reprendre ces éléments, on va choisir tous ceux qui sont au-dessus du seuil, on va recommencer l'opération, et qu'est-ce qu'on voit au fur et à mesure qu'on descend le seuil et qu'on fait cette simple démarche de construire une application de premier tour? On constate l'apparition ici de triangles. D'abord, dans un premier temps, on a une périodicité, et puis des triangles que là non plus, rien ne laissait soupçonner, qui sont centrés autour de 60 Hz ici, mais on voit ici qu'on a deux lignes qui sont délimitées par les éléments les plus fréquents dans la carte et qui sont ici en blanc et qui signalent l'existence de deux oscillateurs qui ont les périodes suivantes séparées de 16,25 et de 14,4 millisecondes.
Autrement dit, on a une figure triangulaire très particulière qui suggère une structure du bruit synaptique que rien ne laissait présager. Et puis on descend encore et on va enlever les éléments qui sont ici. On va refaire une carte. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que ce triangle-là en cachait un autre. Et qu'une troisième fréquence apparaît ici, caractérisant un troisième oscillateur. Ce qui veut dire que les neurones qui génèrent le bruit synaptique, il y en a une grande quantité autour du cerveau, sont groupés sous forme, sont synchronisés et activent la cellule en même temps sous forme de ces oscillateurs, en tout cas ce que suggère cette image. Une analyse un petit peu plus fine de la base de ces triangles suivante va nous montrer que non seulement nous avons des oscillateurs, mais qu'en plus ils sont couplés. Ils sont couplés entre eux. Et par exemple, voilà ce qui se passerait s'ils étaient totalement indépendants. On aurait deux séquences qui glissent l'une sur l'autre, et on aurait rien entre les triangles, on aurait des événements ici, on a une base de triangles, et on aurait dans la carte des éléments qui succéderaient 1, 2, 3, 4, 5, toujours sur la ligne. Lorsque les éléments sont couplés, on voit que les intervalles ici sont constants, et dans les cartes, on a cette disposition, par exemple, de 1, 2, 3, 4, 5, très régulière, qui suggère, du fait qu'elles sont mélangées, ce qu'on voyait sur l'image précédente, qu'on a un faible couplage entre ces oscillateurs. Et ce couplage est ici validé par la disposition des éléments anatomiques qui génèrent le bruit synaptique, qui sont les neurones qu'on voit ici, et qui sont couplés entre eux par des synapses excitatrices et par des synapses inhibitrices. Or, le couplage d'oscillateurs, on le sait, peut provoquer un chaos déterministe. Et voilà comment, très progressivement, s'est imposée l'idée que peut-être la disposition, la structure du bruit synaptique cachait un chaos. Et ceci nous conduit à voir un petit peu, brièvement, qu'en est-il du chaos, que signifie ce terme. Alors là, on est obligé de revenir très brièvement sur des notions de physique, ça sera très bref, pour dire que les systèmes chaotiques, les systèmes dynamiques d'abord, dynamiques, c'est-à-dire, sont au mieux étudiés dans ce qu'on appelle un espace des phases. C'est-à-dire qu'on va construire un espace qui va comporter autant de dimensions que l'élément étudié a de paramètres qui le constituent ou qui le gouvernent. Par exemple, ici, on a une trajectoire. Ça pourrait être la trajectoire d'une mouche. Donc, dans l'espace, on a une trajectoire tridimensionnelle. Mais pour les phénomènes complexes, on peut avoir 5 dimensions, 10 dimensions. On peut construire un espace des phases, mais il n'est pas aussi manifeste, aussi, on ne peut pas le visualiser comme ça. On reviendra là-dessus dans un moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme structure, comme trajectoire dans un espace des phases ? Il y en a essentiellement 3. Et par exemple, prenons pour illustrer les choses un pendule. Si un pendule oscille d'un endroit à l'autre, mais qu'il est amorti, comme c'est le cas dans la majorité des cas, l'espace des phases on va voir cette image-là qui va progressivement se stabiliser au point d'un point fixe. Pourquoi ? Parce que l'inertie fait que le pendule se stabilise. On peut avoir ce qu'on appelle un cycle limite. C'est par exemple un pendule qui serait dans le vide et qui ne serait pas amorti, serait indéfiniment, oscillerait d'un endroit à l'autre. Et voilà ici son oscillation et cette orbite qui va dans un sens sans cesse. C'est ce qu'on appelle un cycle limite. Mais le pendule en question peut être relancé par des chicnodes d'un moment à l'autre, ou encore avoir un aimant, deux aimants qui vont le renvoyer, et voyez la trajectoire qu'il va suivre dans ces conditions-là va être extraordinairement complexe. Et dans l'espace des phases, peut apparaître une image très belle en aile de papillon bien connu des uns et des autres et qu'on appelle un attracteur étrange et qui signe la présence d'un chaos déterministe. Donc parlons un peu du chaos et voyons les propriétés du chaos. On va aller assez vite, mais c'est passionnant. Le chaos, contrairement à ce que l'on peut penser d'après le terme usuel, ce n'est pas du désordre. C'est tout le contraire. On dit chaos déterministe parce qu'on va avoir des trajectoires. Mais il va se passer des choses très étranges dans ces trajectoires que je vais vous montrer brièvement. D'abord, alors le chaos était connu en fait depuis Poincaré, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, mais il a fallu attendre l'avènement des ordinateurs pour qu'on puisse l'étudier avec fiabilité, parce que les calculs qu'il requiert sont tellement compliqués que il n'y a pas de solution analytique simple qui permette de comprendre toutes ces propriétés. Donc, c'est vers les années 60 que tout d'un coup surgissent les belles images chaotiques comme celles que je viens de vous montrer. Comment est-ce qu'on peut obtenir du chaos? Eh bien, par exemple, avec trois équations différentielles qui comportent des termes communs, donc qui sont couplés d'une certaine façon, dont vous remarquerez qu'ils ne comportent aucun élément aléatoire, aucun élément. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de hasard là-dedans. Ce sont trois équations différentielles. Et lorsque un système comme celui-ci est simulé, on va obtenir ces images. Ça, ce sont deux séries temporelles successives qui sont obtenues et dont on voit qu'elles divergent l'une de l'autre. Et dans l'espace des phases, elles vont diverger de façon exponentielle. Pourquoi? Eh bien, parce que, aussi proche que soit le point de départ de ces deux trajectoires qui sont figurées ici, elles ne sont jamais, jamais, jamais tout à fait superposables. Il n'y a pas un calcul qui peut donner... elle peut différer de la 50e décimale, de la 100e décimale, mais il y a une petite différence, et cette différence va être magnifiée, va être augmentée dans les systèmes chaotiques, alors que dans les systèmes qu'on appelle linéaires, elle resterait exactement la même. C'est ce qui différencie les uns des autres. Donc, elles sont, les séries chaotiques, enfin le chaos, est, c'est ça sa définition essentielle, sensible aux conditions initiales, les conditions initiales étant les points de départ. Et revenons à... Revenons à cette image d'attracteur étrange et voyons qu'est-ce qui se passe sur cet attracteur d'un moment à l'autre. Voilà, de nouveau, cette aile de papillon qui a été obtenue avec les équations que je vous ai figurées tout à l'heure. Il y en avait trois. J'aurais pu vous dire que ces équations avaient été proposées par Lorentz pour simplement simuler la météorologie, pour comprendre pourquoi est-ce que la météorologie était imprévisible. Ben oui, pourquoi? Parce que ces séries divergent. Et voilà, par exemple, ces ailes de papillon ici, cet attracteur étrange, dit de Lorentz. Et voilà ici l'attracteur, proprement dit, dans un espace tridimensionnel. On a 10 000 trajectoires qui partent ici, apparemment du même endroit. N'empêche que quelques secondes, 2-3 secondes plus tard, elles vont être les unes ici, les autres, n'importe où, sur ces trajectoires qui sont un tout petit peu, sur ces éléments qui sont un tout petit peu plus marqués sur le trajet, 4-5 millisecondes plus tard, elles vont être n'importe où ici, et 10-20 secondes plus tard, regardez, l'ensemble peut être occupé, mais sans qu'on sache exactement quelle trajectoire sera à quel endroit. En d'autres termes, les trajectoires chaotiques sont imprévisibles. D'où l'élément d'incertitude dont je vous parlais tout à l'heure et que je vais essayer de ramener un petit peu au système nerveux. Ces trajectoires sont très très compliquées et en plus quand elles sont multidimensionnelles. Alors pour les étudier, on va utiliser ce qu'on appelle des sections de Poincaré. C'est quoi une section de Poincaré? Voilà ici le principe de ces sections, vous allez l'illustrer ici. On va couper les trajectoires dans l'espace des phases par un plan. Et on va ne retenir sur ce plan que les points qui la coupent. Autrement dit, quand la trajectoire passe par ce plan, c'est marqué par un point. Et encore, c'est sur une partie de la trajectoire. Et cette simplification permet de visualiser, regardez ici par exemple, un attracteur de Lorentz, et regardez sur la section de Poincaré la simplicité de cette trajectoire. La beauté de cette manœuvre, c'est non seulement qu'elle simplifie, qu'elle permet de visualiser les choses, mais en plus, il a été prouvé, c'est d'ailleurs pas beaucoup de gens s'y sont mis, que les propriétés générales des trajectoires des systèmes chaotiques étaient conservées lorsqu'elles étaient représentées sur un plan comme celui-ci. Or, qu'est-ce que ce plan? Pourquoi est-ce que je vous le montre? Parce que les applications du premier tour, dont nous avons parlé tout à l'heure, quand nous analysions le bruit de façon très simple, correspondent pour l'essentiel à faire des sections de Poincaré. C'est un peu la même chose. Alors, quelles sont les autres propriétés? Sensibilité aux conditions initiales. Caractère imprévisible de où se trouvera la trajectoire à moyen terme et à long terme surtout. Et puis, un aspect très particulier qui fait que les systèmes vraiment aléatoires peuvent être confondus. Et vous voyez ici, elles oscillent entre l'ordre et le désordre. On a bien quelques figures qui semblent se répéter, mais elles sont interrompues. Aucune ne ressemble à l'autre. Et aucune ne ressemble à l'autre parce que, dans une série de trajectoires chaotiques, jamais la trajectoire ne repassera exactement au même endroit. Malgré, on a vu ces attracteurs, mais il ne passera pas au même endroit. Donc ici aussi, on a mélange d'ordre, de désordre apparent. On ne peut pas dire grand-chose, mais... Et certains neurones se comportent de la même manière. Maintenant, je vais revenir très vite au système nerveux. Voilà, par exemple, un neurone qui est enregistré. Et qu'est-ce que ce neurone? C'est un de ceux qui provoque le bruit, qui génère le bruit synaptique dans la cellule de Motner. Toujours identifié par une électrode pré- et post-synaptique. Bien voilà, ici, on a... Et qu'est-ce qui se passe? À première vue, les décharges, chaque montée verticale, c'est un potentiel de direction, c'est un signal qui va venir activer les synapses qui contactent la cellule de Motner. Ces signaux sont apparemment groupés, mais aucun groupement ne ressemble l'un à l'autre. Il y a des espaces un peu plus grands, certes. Bon. À première vue, ils sont aléatoires, mais quand on les examine sur une section de Poincaré, apparaît quand même un certain ordre avec des grands espaces, des petits espaces, des petits espaces, des grands espaces, et toujours ce retour sur une région centrale de l'application qui témoigne du fait que la valeur moyenne, enfin la valeur préférentielle plutôt, de ces intervalles, c'est ce qu'on appelle du 40 Hz, enfin, l'hertz gamma. C'est autour de ces valeurs-là. Donc, deuxième autre propriété, ce caractère apparemment aléatoire. Et puis il y en a une autre, ce sera probablement la dernière que j'évoquerai avant de revenir à l'avant-dernière, c'est le fait que des systèmes chaotiques ne sont pas toujours chaotiques. Et on peut entrer dans le chaos par la voie de bifurcation qu'on peut schématiser ici mathématiquement, mais qui vont trouver une traduction dans la réalité. Sur le plan mathématique, voilà une équation qu'on appelle quadratique, et en fonction... On va mettre en ordonnée x et en abscisse quoi? La valeur d'un de ces termes qui est ici dans l'équation, et c'est lui qui va varier. C'est ce qu'on appelle un paramètre de contrôle. Et suivant la valeur de ce paramètre de contrôle, on voit que le système représenté par cette équation va d'abord représenter une seule valeur, puis tout d'un coup il va bifurquer, il va y avoir deux valeurs possibles, et puis quatre. Et puis finalement, au-delà de 3,6 ou 8, ça dépend, je ne me souviens plus très bien, on a du chaos. Autrement dit, pour une certaine valeur de K, de ce paramètre de contrôle, on a un seul état, deux états, période 2, période 4, chaos. Comme ça, c'est abstrait. Mais il faut savoir que cette équation quadratique a été extrêmement utilisée pour modéliser beaucoup des phénomènes de la nature, par exemple la taille d'une population donnée, d'insectes, d'animaux, en fonction de la valeur du paramètre de contrôle, qui peut être la température ambiante ou qui peut être la quantité de nourriture, ou on peut compliquer avec des prédateurs, etc., ou des luttes pour le territoire. Et ces bifurcations existent également dans le cerveau. Suivante, voilà un neurone, cette fois-ci d'un ganglion particulier du homard. Vous voyez qu'il décharge régulièrement ici. Dans l'espace des phases, qu'est-ce qu'on a ? Ben, un point, puisque c'est régulier, on a un point fixe. Mais pour peu que l'on injecte du courant dans ce neurone, ces décharges vont se modifier. On a une bifurcation, va apparaître une période 2 dans l'espace des phases. Et puis, on augmente encore le courant injecté dans la cellule. Et voilà les décharges qui sont désordonnées, qui ressemblent à celles que je vous avais illustrées tout à l'heure sur le neurone précipitatique à la cellule motoneur. Et voilà ici l'apparition d'une figure significative du chaos, enfin évoquant le chaos. Alors, la difficulté, une des difficultés dans la réalité, c'est de quantifier ce chaos. Comment peut-on être sûr que on n'a pas un artefact, qu'on n'a pas, par exemple, un phénomène régulier qui est bruité, qui est contaminé et que le chaos n'est qu'une apparence. Bon, c'est très difficile. C'est particulièrement difficile en biologie. Il y a des mesures. Par exemple, le taux de divergence de deux trajectoires, on recherche la valeur de l'exponentielle qui les sépare. Ici, on peut utiliser l'entropie. Là aussi, elle mesure la divergence. Voilà, par exemple, quelques points qui sont dans un espace qui a été divisé en cases. Et on va mesurer la probabilité qu'au bout d'un certain temps donné, les trajectoires correspondant à chacun de ces points est dans une de ces différentes cases. C'est l'entropie, c'est la probabilité, le moins log de la probabilité, etc. Il y a une mesure un peu plus fine qu'on appelle l'entropie de Kolmogorov-Sinaï et qui est une mesure du taux de changement de l'entropie dans le temps. Comme je l'ai dit, ces figures sont très difficiles à... Ces mesures sont très difficiles à appliquer en biologie parce que les données expérimentales ne sont pas stationnaires, parce qu'elles sont bruitées. Bon. Il n'empêche que dans certains cas, on peut au moins tenter le coup. Et l'image suivante va vous montrer... Non, ça y est, une erreur. Voilà. Que, bon, on a dans le bruit synaptique, j'y reviens parce que tout ça c'était pour voir du bruit synaptique, on a au niveau des triangles des valeurs de ces invariants, c'est-à-dire de ces mesures, on appelle les invariants, soit de l'entropie de Kolmogorov-Sinaï, soit d'une autre valeur qui, au niveau des triangles, d'un autre paramètre, tout d'un coup s'accroissent et deviennent significatives. Pourquoi ? C'est très difficile de garantir que ces invariants correspondent à une réalité. Mais il y a des tests spécifiques, statistiques. Vous voyez, tout ce qui est en dessous n'est pas significatif, tout ce qui est en dessus est significatif. C'est ce qu'on appelle des surrogates. Et la manip consiste à prendre les données, par exemple, qui correspondent à ces triangles, et maintenant à les mélanger au hasard. Et on va poser la question suivante au test statistique. Est-ce que les valeurs qu'on obtient ici sont comparables à celles qu'on a lorsqu'on est dans le hasard ? Et la réponse ici est peut-être, ici elle est non. Tout ça pour conclure, ou presque, que le bruit synaptique, l'activité spontanée de tout un réseau nerveux, donne des images et peut être décrite dans le temps avec des conclusions qui sont compatibles. Je ne dis pas qu'il y a du chaos, mais je dis qu'elles sont compatibles avec la notion de chaos et donc d'incertitude qui est le thème essentiel de cette petite conférence. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Oui, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? En ce qui concerne, par exemple, le fonctionnement d'un neurone donné, comme la cellule motoneur, on est loin de comprendre quelle peut être l'incidence du chaos sur la relation entrée sortie du neurone. On ne le sait pas, on le soupçonne quand même, et il est très probable qu'elle contribue à cette marge d'incertitude que je signalais tout à l'heure et qui a une telle importance sur le plan adaptatif. Mais une des dernières propriétés du chaos, ou du moins une des dernières distinctions qu'on peut faire entre les éléments qui sont véritablement aléatoires, stochastiques, et ceux du chaos, c'est qu'en principe, les seconds peuvent être contrôlés. Malgré, je ne peux pas entrer dans le détail, c'est magnifique, mais la théorie veut qu'on puisse contrôler des systèmes chaotiques et les ramener sur une des orbites que vous avez vues tout à l'heure, par exemple dans certaines bifurcations ou dans les attracteurs. On peut les forcer à revenir sur des périodes particulières. D'où le grand intérêt que présentent les outils dérivés de la théorie du chaos, qu'on appelle les outils de la dynamique non linéaire, et qui permettent de prévoir certaines activités dans le cerveau, ou du moins de les prévenir. Pourquoi ? Voilà ici... Alors, c'est très utilisé aujourd'hui pour la recherche d'outils permettant de déterminer si on va avoir ou non une crise épileptique. Voilà des tracés enregistrés sur un cerveau épileptique, sur le scalp. On voit qu'on a ici une activité de base, et puis tout d'un coup, se déclenche la crise épileptique. En fait, c'est un exemple d'ailleurs de bifurcation et de bistabilité, comme que je vous signalais tout à l'heure. L'analyse particulière, avec des outils particuliers de cette période-là, suggère, dans un espace tridimensionnel, la présence de chaos. L'idée qu'ont eu un certain nombre de gens, et qu'ils ont toujours, est d'essayer d'utiliser les outils qui permettent de dire, alors, qu'est-ce qui se passe dans la phase qui précède le chaos ? Pourquoi ? Parce que si on pouvait, chaos, cette activité dynamique ici, pourquoi ? Parce que si on pouvait, on pourrait contrôler la crise, en principe du moins. D'où la recherche de signes prémonitoires. Et effectivement, certaines mesures, un peu comparables à celles que j'évoquais tout à l'heure, permettent, vous voyez, tout d'un coup, ces mesures deviennent significatives, très très différentes, et signalent, voilà ici le déclenchement d'une crise, deviennent positives comme ça dans la période qui précède le déclenchement de la crise épileptique. Bon, voilà une des applications possibles. Et puis, il y a d'autres applications, beaucoup plus théoriques, mais qui font un peu rêver. Et c'est la dernière image que je vous évoquerai maintenant. Bon, je conçois que ça est parfois un peu difficile à saisir pour tout le monde, et qui permet de rêver ou de concevoir ce que seraient ou ce que sont peut-être certains états internes du cerveau. On pourrait imaginer, bon, le cerveau est évidemment dynamique, par nature. On n'a pas besoin d'être un grand savant pour le dire. Le cerveau détecte, prévoit, fait des plans, contrôle un comportement donné, contrôle un mouvement. Bon, c'est un élément dynamique qui varie d'un état à l'autre. Et on pourrait... Alors, dès que sont apparues toute cette dynamique non linéaire, tout de suite, les gens ont commencé à penser, mais peut-être que ça peut nous donner une bonne métaphore, au moins, ou une bonne représentation de ce que sont les états cérébraux. Et voilà, par exemple, schématisé ce qu'on pourrait illustré pour représenter cette notion. Les points noirs ici figureraient des attracteurs. Ah oui, alors, les attracteurs, ce sont ceux que je vous évoquais tout à l'heure, un cycle limite, une orbite périodique, ou un cycle limite, pardon, un point fixe ou un attracteur étrange. Bon. Chacun étant différent l'un de l'autre. Et les trajectoires, le cerveau explorerait en permanence ces différents attracteurs dont il est difficile de dire ce qu'ils pourraient représenter. Mais ils pourraient représenter, par exemple, une émotion, une mémoire, un projet, un comportement. Et il oscillerait comme ça de l'un à l'autre, sachant que ces attracteurs eux-mêmes ne seraient pas fixes, parce qu'ils seraient sous-tendus par une activité neuronale qui elle-même est variable. De sorte que ces attracteurs, on en a figuré trois ici sur un modèle d'ordinateur, seraient intriqués les uns avec les autres. En fait, ils se superposeraient. Et chacune des couleurs ipsi représenterait un attracteur de nature différente et probablement de signification différente. Et puis, compte tenu de la sensibilité de ces systèmes aux conditions initiales, l'apparition d'un stimulus forcerait les trajectoires vers des cibles ou vers des attracteurs particuliers qui seraient propres à cette trajectoire donnée, permettant par exemple de ressusciter une image, de ressusciter une mémoire, de déclencher un projet ou de déclencher un comportement qui est adapté à ce stimulus particulier. Donc, j'ai nécessairement été très vite, mais vous voyez que tout ça nous donne quand même une certaine notion de l'adaptabilité du cerveau, de comment peut-on le représenter et comment peut-on commencer à l'aborder, peut-être expérimentalement, mais d'une toute autre manière que la façon réductionniste, qui cherche à regarder ce qui se passe au niveau des synapses, quels sont les neuromédiateurs, quels sont les canaux activés, mais en sachant cependant, et c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau dans tout ça, à savoir que ce n'est pas parce qu'on comprend les composantes d'une machine qu'on sait autant pourquoi elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Là, c'est une représentation globale, macroscopique, prise de très loin, mais qui va permettre probablement d'aborder des questions comme comment fonctionnent les ensembles nerveux, comment est-ce qu'ils sous-tendent une fonction donnée, et peut-être comment certaines fonctions s'organisent, parce qu'on peut très bien imaginer que dans l'idéation, dans le langage, dans toute une série de fonctions comme celle-là, on a des superpositions et d'attracteurs qui permettent de rencontrer d'éléments qui aujourd'hui encore restent très mystérieux, quoi qu'on en dise. Voilà. Je vous remercie.
Est-ce qu'il a été possible de mettre en évidence de telles propriétés dans des réseaux neuronaux artificiels à l'heure actuelle ?
Ah oui, oui, oui. C'est même en fait dans les réseaux neuronaux que ça marche le mieux. Parce que, comme je l'ai dit, oui, la modélisation est infinie. Et il y a beaucoup de modèles de différentes natures qui simulent des systèmes chaotiques, qui les simulent en tentant de donner aux éléments de base du modèle des propriétés de différents éléments qui correspondent à des propriétés neuronales connues. Oui. Mais est-ce que vous voulez en savoir plus là-dessus ou...
Attendez.
Parce que une fois que la réponse est oui, d'ailleurs, une grande partie des données expérimentales que l'on observe, soit se guide pour être interprétées sur les données de modèles, soit éclaire ce que certains modèles ont proposé.
Est-ce qu'on a étudié la réponse de tels systèmes, justement, quand on leur applique des stimulus par analogie avec la figure que vous proposez ? Est-ce qu'ils développent leur propre réponse, en quelque sorte ?
Alors, si, oui, là, la question que vous posez est difficile. Peut-être que d'autres y répondraient plus clairement. Si vous voulez, là, j'ai quand même schématisé les choses, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que les mesures qu'on a faites ou les données expérimentales sont compatibles avec ce qu'on appelle un chaos de basse dimension. C'est peut-être une notion que j'aurais dû préciser. J'ai dit que les systèmes dynamiques, ou les systèmes chaotiques, dans l'espace des phases, reflétaient le nombre de paramètres qui. Évidemment, dès qu'on arrive sur une fonction compliquée, une fonction cérébrale, ou qui implique un grand ensemble de réseaux nerveux, on n'a plus affaire à deux ou trois dimensions, mais ce sont souvent des éléments, des systèmes multidimensionnels, et leur frontière avec les éléments proprement aléatoires est très difficile, ou avec le bruit, est très difficile à distinguer. Mais là encore, oui, les modèles sont particulièrement utiles, si c'est à votre question, je ne peux pas en dire plus.
Je voulais vous demander quelque chose, enfin plusieurs choses. La première, c'est que le poisson, quand même, fuit.
Pardon ?
Le poisson fuit. Enfin, il a un espèce de déterminisme du comportement, plus ou moins, puisqu'il fuit quand il perçoit un stimulus auquel il n'est pas habitué.
Tout à fait.
Donc, suivant les niveaux, on a l'impression que les analyses sont très différentes. Parce que vous prenez le niveau, finalement, du neurone, ou des neurones, quelques neurones, et donc il y a un certain chaos déterministe que vous avez décrit. Ça me rappelle un peu aussi le mouvement brownien, qui, lui, est totalement... aléatoire. Mais là aussi, il y a, lorsqu'on prend un autre niveau, il y a des régularités comme la pression d'un gaz ou sa température. Et d'autre part, je pensais aussi à Eccles,
c'était mon maître.
Qui justement a voulu, avec plus ou moins de bonheur, évoquer une théorie spiritualiste, on pourrait dire.
Alors, je vous arrête tout de suite.
Je termine.
Non, s'il vous plaît. Ou bien vous posez une question, ou bien vous affirmez. Mais en ce qui concerne les théories spiritualistes de Eccles, j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 2 ou 3 ans. Et franchement, ces théories spiritualistes ne tenaient pas la route. C'était un grand savant, mais c'était aussi, disons, pour être gentil, un grand rêveur. Et je ne crois pas que l'on puisse... Les données qu'il fait sa gloire ne confirmaient pas ces théories.
C'est bien ce que j'avais pensé. D'ailleurs, la notion de quanta chez lui est tout à fait différente. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut se demander quand même, qu'on soit spiritualiste ou matérialiste, peu importe, en pratique, est-ce qu'on peut affirmer par telle ou telle théorie une certaine liberté qui, justement, à un autre niveau encore, parce qu'on prend le niveau, finalement, neurone, s'aperçoit qu'il y a un chaos déterministe, on prend le niveau macroscopique, il y a certaine régularité.
Venir, tout de suite, je vous vois venir et je souligne que votre question est parfaitement légitime. Elle a été posée par de très grands esprits, d'autres grands esprits, les images que j'ai montrées, enfin les concepts, ont été invoqués pour rendre compte, y compris du libre arbitre. Mais effectivement, il y a eu ces propositions ont été formulées.
Vous avez introduit le chaos. Je voudrais aussi savoir si dans nos cerveaux très chimiques, la mécanique quantique ne peut pas créer un certain hasard.
Pouvez-vous reposer votre question ?
On a en mécanique quantique des principes qui nous disent qu'on ne peut pas savoir de manière déterminée, que c'est statistique. Je sais aussi que notre cerveau est moléculaire, donc composé d'atomes. Et je me demandais, est-ce que la mécanique quantique pourrait aussi créer
Écoutez,
un certain hasard ?
Je ne peux pas vous répondre là, mais je voudrais surtout vous répondre de côté. Je ne voudrais pas qu'on confonde la libération quantique des neuromédiateurs et la nature quantique de la neurotransmission avec les quantas de la physique quantique, parce que c'est presque un abus de langage. Katz, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs pour avoir découvert la nature quantique de la neuromédiation à la jonction nerf-muscle, avait utilisé cette expression, on comprend pourquoi, c'était la quantité minimale contenue dans une vésicule, les neuromédiateurs, et puis c'est toujours égal par unité discrète, etc. Bon, mais l'analogie s'arrête là.
Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y aurait une mauvaise capture de tel neuromédiateur qu'il aurait vraiment décidé de prendre s'il n'y a pas de hasard à ce moment-là ?
Non, attendez. Alors, en ce qui concerne les médiateurs, les médiateurs contenus dans un ensemble neuronal donné sont spécifiés et sont constants. On a cru pendant longtemps qu'il y avait un seul médiateur. On sait maintenant qu'il y a des co-transmissions. En ce qui concerne, par exemple, les images que je vous ai montrées, c'était des neuromédiateurs, le neuromédiateur de la glycine, qui active des canaux chlore, et un neuromédiateur de l'inhibition. Il y a aussi des co-transmissions avec certains peptides dans ces neurones. Quand il y a des co-localisations de médiateurs dans une terminaison, généralement, on pense, pour celles qui ont été étudiées, qu'elles sont libérées par des fréquences d'activation et des conditions différentes pour l'un et pour l'autre. Mais non, ça ne se fait pas au hasard. Quant à la capture, alors là, je ne sais pas ce que vous appelez la capture, si vous voulez dire, parce qu'il y a deux éléments qui se passent, il y a une recapture par les terminaisons qui viennent de libérer un neuromédiateur, ça c'est une forme de capture, mais j'imagine que celle à laquelle vous faites allusion, c'est plutôt le binding, c'est-à-dire le fait qu'il se lie ou non à des récepteurs postsynaptiques. En général, il se lie, mais là, il y a, à moins qu'il y ait un bloquant, un inhibiteur de neuromédiation au niveau postsynaptique, mais là aussi, il y a, dans la quantité de canaux qui sont ouverts, des éléments stochastiques qui sont importants. J'avais mis une ou deux images pour l'illustrer, et puis je ne pouvais pas. Ça faisait trop. Il y a aussi des éléments stochastiques là, oui, bien sûr.
En neurobiologie, est-ce que le terme chaos est identique à la même signification que le terme hasard?
Non, justement, c'est ce que j'ai montré. D'abord, il n'a ni en neurobiologie ni en général la même. Non, ça n'a pas la même signification. J'ai essayé de montrer qu'il y avait deux ordres de choses très différentes. Ça me rappelle que je voudrais conclure. D'abord, j'ai parlé du chaos, c'est vrai, mais ce qui est important, le point fort, c'est que de la théorie du chaos sont issus des concepts et des outils qui permettent d'étudier la dynamique, l'évolution des choses. Et à la limite, le terme chaos est un peu passé de mode. Aujourd'hui, ce qui intéresse les neurobiologistes, certains neurobiologistes, pas assez d'ailleurs, c'est un petit peu une... Encore, on est dans l'émergence des choses là, mais ce qui intéresse certains, c'est la dynamique. C'est pas de catégoriser aussi simplement, parce que les activités sont justement dynamiques, elles fluctuent trop. Et puis, encore une fois, on n'aura jamais la certitude qu'on a avec un système physique, avec un modèle. Pour le proposer, là, les choses sont claires, sont sans bavure. Bon, en biologie, c'est toujours plus... Voilà.
Henri Korn, merci beaucoup.